14 mai 1983, première conférence.
Dans le temps d'attente de la venue de l'Esprit Saint, en cette année sainte, où tout doit prendre une acuité particulièrement intense, auprès de la Très Sainte Vierge, on va essayer de regarder ensemble ce que représentent les dons du Saint-Esprit et spécialement le don de sagesse. Le don de sagesse étant le don que Saint Thomas situe à la suite de son étude sur la charité. Alors, si vous voulez, comme petite introduction, parce que c'est nécessaire de bien comprendre la théologie des dons, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie. Tout repose, toute la tradition fait reposer toute la théologie des dons sur le texte d'Isaïe. Ce fameux texte d'Isaïe à propos du serviteur de Yahvé, sera mené selon l'esprit de sagesse, d'intelligence, de force. C'est donc intéressant de voir que c'est tout de suite le mystère du Messie, pour nous du Christ, du Fils bien-aimé. C'est à travers le mystère de Jésus que nous devons regarder les dons. Comme si, de fait, dans l'Ancien Testament, la plénitude de grâce n'étant pas encore donnée, le mystère des dons n'est pas encore pleinement explicité. Je sais bien que c'est délicat ce que je dis là, mais je crois qu'on peut le dire, étant donné que ce texte d'Isaïe, sur lequel repose toute la théologie des dons, regarde le Christ. Lorsqu'il s'agit d'Abraham, par exemple, le père de la foi, on ne parle pas beaucoup des dons. Dans l'Ancien Testament, on parle des charismes, des prophètes. Mais on ne parle pas beaucoup des dons. Et comme nous allons voir, le don de sagesse, c'est le don de contemplation. Et dans l'Ancien Testament, on ne parle pas tellement de la contemplation. C'est sûr que Moïse, sur le mont Sinaï, vit pendant 40 jours dans une présence de Dieu, sûrement très exceptionnelle. Et certains pères de l'Église, et saint Thomas se reposent la question, est-ce que Moïse a eu la vision béatifique ? Parce qu'il parlait comme un ami parle à son ami, dans l'intimité la plus profonde. Mais c'est autre chose, les dons du Saint-Esprit à la vision béatifique. Et c'est intéressant de voir que, de fait, étant donné que Moïse est pris d'une manière très particulière par l'Esprit Saint, que tout de suite on pense à la vision béatifique. Et on ne dit pas, mais oui, il avait le don de sagesse. On parle évidemment de Salomon ayant eu la sagesse. La sagesse d'une manière très remarquable, puisqu'il est dit qu'avant, personne ne l'a eu comme lui, qu'après, plus personne ne l'aura plus que lui. Donc c'est une façon très étonnante. Et alors quand on dit ça de Salomon, c'est que Salomon représente Jésus ayant reçu la plénitude de la sagesse. C'est sûr que c'est allé avec le mystère de la Nouvelle Alliance que les dons du Saint-Esprit vont apparaître d'une façon très spéciale, très particulière. Les dons du Saint-Esprit sont rattachés directement à la grâce sanctifiante. Ce n'est pas du côté des charismes, mais il peut avoir des liens. Vous voyez, le sermo sapientiae sera considéré comme un charisme, tandis que le don de l'Esprit Saint, don de sagesse que nous allons voir, eh bien, n'est pas un charisme. Les dons du Saint-Esprit ne sont pas des charismes. Ils sont rattachés directement à la grâce sanctifiante. Saint Thomas distingue tout de suite hein, la première division qu'il fait dans la grâce. Les charismes et la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante, c'est dans notre âme quelque chose de créé. C'est dans notre âme un don de Dieu qui surélève notre âme pour nous donner une vie nouvelle, une vie d'enfant de Dieu. La grâce sanctifiante fait de nous des enfants de Dieu. Alors c'est quelque chose dans notre âme, c'est quelque chose de créé dans notre âme. C'est la grande question de savoir si la grâce est créée ou incréée. Et saint Thomas, au début de sa carrière de théologien, prenait ce qui avait été dit par Pierre Lombard, que la grâce était incréée. Et saint Thomas distinguera dans la Somme, progressivement, il arrivera à cette distinction de dire, attention, si nous prenons la source de la grâce, elle est incréée, c'est l'Esprit Saint. Et si nous prenons ce qui vient ennoblir notre âme, c'est quelque chose de créé. Donc on peut parler de la grâce comme une grâce incréée et comme une grâce créée. Et à côté de la grâce sanctifiante, on parlera toujours de l'auxilium, du secours qui vient nous transformer et qui vient nous permettre d'agir en conformité plénière avec la volonté du Père sur nous. Donc vous voyez, il y a trois choses qu'il faut très bien distinguer. Quatre choses qu'il faut très bien distinguer. Je vais mettre tout de suite au tableau pour que vous puissiez bien le voir. Parce que autrement, nous risquons, comme je ne peux pas voir avec vous le traité de la grâce, ce serait trop long. Je vois tout de suite, hein, dès que je parle de la grâce, nous pouvons parler de la grâce incréée. C'est cette grâce incréée dont parlera tout le temps toute la grande attitude des orthodoxes. Et disons bien que ça existait dans l'Église latine aussi. Hein, il y a tout un courant, le courant néoplatonicien, de considérer que la grâce est premièrement une grâce incréée. Puis, on distinguera la grâce habituelle, qu'on dira la grâce sanctifiante, qui est quelque chose de créé dans notre âme. Qui vient directement de Dieu, c'est évident, c'est créé par Dieu, ce n'est pas notre nature humaine, c'est ce qui nous surélève à la nature divine, ce qui nous donne un principe de vie surnaturelle. Donc c'est une vie surnaturelle. C'est ce que Jésus dit à Nicodème, la nouvelle naissance à partir de l'esprit et de l'eau. Et cette nouvelle naissance, c'est une naissance à la vie divine. C'est ce que les théologiens appelleront, la tradition appelle la grâce habituelle. Et le Concile de Trente reprendra ces distinctions. Donc la grâce habituelle, saint Thomas précisera que la grâce habituelle est un habitus entitatif dans l'âme, dans notre âme spirituelle. Notre âme spirituelle. Pas aussi dans notre corps. C'est un habitus entitatif, c'est-à-dire un habitus qui s'enracine dans notre âme substantielle. C'est un habitus quasi-substantiel. C'est pour ça qu'il dit un habitus entitatif. Et en même temps, c'est une nouvelle naissance. Donc les deux analogies. C'est une nouvelle naissance parce que c'est un principe de vie surnaturelle, et c'est un habitus entitatif parce que c'est quelque chose qui vient ennoblir notre âme. Cette grâce habituelle ennoblit notre âme, la sanctifie. Cette grâce habituelle va se distinguer de ce que représente l'auxilium. Ça s'appelle l'auxilium. C'est-à-dire un secours. Un secours actuel de la grâce. Le secours actuel de la grâce. Et je suis poussé par l'Esprit Saint. C'est un secours actuel. Alors c'est une grâce prévenante. Ce secours actuel qui nous enveloppe, qui nous aide. Et puis, c'est une motion, c'est des motions de lui-même. Alors, c'est de l'ordre de l'exercice, vous voyez. Tandis que la grâce sanctifiante, c'est ce qui vient ennoblir notre âme et la sanctifier. Et alors, il y a en plus les grâces, dites des grâces charismatiques, c'est-à-dire, ce que saint Thomas dira, des grâces données gratuitement, baptise gratuitement. Toutes les grâces sont données gratuitement, mais on appelle spécialement ces grâces données gratuitement les grâces charismatiques. Ça, il faut comprendre ces distinctions. C'est assez facile, si vous voulez, quand on est un tout petit peu habitué à analyser un peu au point de vue théologique, mais il faut bien comprendre ces distinctions. Les grâces charismatiques, les grâces données gratuitement, ces grâces charismatiques sont en vue de la sanctification du prochain, sont pour le prochain. Alors on peut dire que c'est du côté de la charité fraternelle. Voyez, c'est des grâces données pour la communauté. Dans toute communauté qui se respecte, n'est-ce pas, il y a un prophète. Hein, c'est évident. Il y a un prophète dans toute communauté qui se respecte. Il y a, pour que justement, il y ait un petit peu plus de chaleur. Hein, à l'origine du prophète. Bon, et c'est les grâces données gratuitement. Il y a quelqu'un qui a un don particulier pour guérir les malades. Il y en a un qui a le don d'interprète pour ceux qui parlent des langues. Hein, ça peut arriver. Épisode de Marthe Robin à propos des grâces charismatiques de parler en langue. C'est Marthe elle-même qui me racontait ça. Ils sont venus, puis au milieu d'eux, il y avait la prophétesse. Et elle avait un corsage, c'est bien qu'il y ait vu Marthe qui était aveugle. Puis ils ont demandé si je pouvais prier avec eux. Alors j'ai dit oui, puis ils sont mis à prier en langue. Ils m'ont demandé est-ce que vous avez compris. J'ai dit non, puis j'aurais demandé vous. Ils m'ont dit non. Je leur ai dit, j'espère que le Saint-Esprit a compris. C'était bien. Quand on parle en langue, il faut quelqu'un qui interprète. Il faut bien, c'est nécessaire. Alors, les grâces charismatiques, c'est des grâces pour aider les autres. Ce n'est pas une grâce qui nous sanctifie. Être prophète, ça ne sanctifie pas nécessairement. Guérir les malades, ça ne sanctifie pas nécessairement. Donc, il faut bien distinguer les grâces charismatiques, les grâces sanctifiantes, l'auxilium, et puis la grâce agréée, qui est Dieu lui-même, la très sainte prière. Bon. Alors, les dons du Saint-Esprit se situent dans le prolongement de la grâce habituelle. Et ceci, c'est capital de bien comprendre. C'est dans le prolongement de la grâce habituelle. C'est donc pas avec les grâces charismatiques. C'est le prolongement de la grâce habituelle qui, justement, va venir permettre un exercice divin des vertus théologales. La grâce habituelle est source de la vertu théologale de foi, d'espérance et de charité. Et la grâce habituelle est source de toutes les vertus infuses. Vous voyez ce que c'est que les vertus infuses? On acquiert très difficilement l'humilité, vous savez bien. Si vous avez la grâce sanctifiante, vous avez la vertu infuse d'humilité. Même si vous n'avez pas la vertu acquise. C'est le Saint-Esprit qui est pressé alors qu'il nous donne toutes les vertus infuses. Vous avez toutes les vertus infuses. La vertu infuse de prudence, la vertu infuse de tempérance, la vertu infuse de force. Alors vous voyez, quand vous n'avez pas la vertu acquise, c'est pas commode. Hein. Vous sentez que ça grince. C'est pas commode, c'est pas commode. Je vois bien ce qu'il faut faire, je le sens bien. La vertu infuse est là pour nous faire comprendre, pour nous aider quelquefois, mais c'est pas commode. Alors, il faut bien comprendre que de la grâce habituelle, de cette grâce sanctifiante, jaillit les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. Et les vertus infuses de prudence, de tempérance et de force et de justice. toutes les grandes vertus infuses qui viennent directement les révéler. Donc c'est donné gratuitement par Dieu. Vous n'en avez pas conscience psychologique, hein. Tandis que vous avez conscience psychologique de vos vertus acquises, quand même. J'ai tellement lutté pour acquérir l'humilité que je sens que ça pousse. Hein? Ne le dites pas trop, parce que c'est déjà quelque chose qui montre que l'humilité n'est pas entièrement acquise. N'est-ce pas? Mais ça ne veut rien, ça peut être un petit début, comme ça. Petit quelque chose qui nous aide un tout petit peu. Bien, voyez la vertu de tempérance, je sens que ça pousse. Je sens que ça pousse, un petit peu moins de difficultés qu'avant. En vertu de la force, c'est la même chose. Les vertus infuses, on les sent pas. Elles nous sont données gratuitement. Alors, pourquoi les dons? Pourquoi encore rajouter les dons? Les dons proviennent de la grâce habituelle et même de la charité. Directement de la charité. La grâce habituelle, évidemment, s'épanouit pleinement dans la charité. Et les dons vont venir perfectionner l'exercice des vertus théologales, des vertus infuses. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Les dons vont permettre un exercice divin des vertus théologales. Un exercice divin des vertus infuses. Je ne vais plus exercer les vertus théologales selon un mode humain, je vais les exercer selon un mode divin. Je vais m'expliquer, vous allez comprendre. Hein. Les vertus théologales, je prends la foi ou la charité, si vous voulez, elles ont comme objet directement Dieu. Par les vertus théologales, j'ai un contact direct et immédiat avec Dieu. Or, la grâce ne supprime pas la nature. La grâce ne modifie pas mon conditionnement intellectuel. C'est pas parce que j'ai la foi que je deviens subitement intelligent. Je peux avoir la foi et rester bête. Ça existe. Comme il y a des gens très intelligents qui n'ont pas la foi, et il y a des gens qui ne sont pas très intelligents et qui ont la foi. Ça peut exister. Il y a des gens qui n'ont peut-être pas beaucoup de dynamisme humain, et qui, par l'espérance, ont un grand dynamisme divin. Donc, les vertus théologales m'enracinent directement sur le mystère de Dieu et me lient directement à Dieu. C'est propre des vertus théologales. Alors, il y a, puisque la nature n'est pas modifiée, puisque je continue d'avoir un exercice qui reste humain, l'exercice humain de ma prudence n'est pas en connaturalité avec l'objet. Et c'est pour ça qu'il faut les dons pour permettre un exercice divin des vertus théologales qui soit en connaturalité avec leur objet. On va comprendre ça progressivement, je vous le dis tout de suite pour que vous saisissiez un tout petit peu comment le théologien, à cause du texte d'Isaïe, en regardant le mystère du Christ, a dit, mais oui, il y a les dons du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que c'est que les dons du Saint-Esprit? Les dons du Saint-Esprit, ce n'est pas les vertus théologales. C'est à la suite des vertus théologales, des dons. Ce n'est pas des vertus, ce sont des dons. Alors, pourquoi on dit des dons? C'est parce qu'on insiste sur l'aspect de la gratuité. On insiste aussi sur l'aspect que vous ne pouvez pas exercer les dons du Saint-Esprit comme vous le voulez. Quand je suis un peu lucide et suffisamment éveillé, je peux faire quand je veux un acte de foi. Vous entrez à l'église et vous faites un acte de foi. Je crois en la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Je peux faire quand je veux un acte d'espérance. Je peux faire quand je veux un acte de charité. Plus ou moins fervent. C'est plus ou moins dur. C'est plus ou moins pénible. Mais je peux le faire quand je veux. J'exerce quand je veux les vertus théologales. Tandis que je n'exerce pas quand je veux les dons du Saint-Esprit. Mais ce serait trop commode, hein? Dire, je vais exercer maintenant le don de sagesse. Je connaissais quelqu'un qui prétendait qu'il se mettait en extase, et la huitième demeure, hein, quand il le voulait. Et je lui ai dit que je ne croyais pas beaucoup à ça. C'était vraiment, il disait, quand il y avait le fauteuil du don de sagesse. Hein, parce que c'est particulièrement dans ce fauteuil-là, il se mettait dans son fauteuil, un très beau fauteuil, puis il se mettait quand il voulait. Il disait, maintenant je vais entrer, fermer les yeux, je vais entrer dans la huitième demeure. Donc il prétendait agir quand il voulait sur les dons du Saint-Esprit. Bien, ça, c'est pas tout à fait juste. Je ne peux pas agir quand je veux sur les dons du Saint-Esprit. Je peux demander à Dieu, je peux supplier le Saint-Esprit d'agir. Oui, ça nous devons le faire. C'est pour ça que c'est bon d'étudier les dons du Saint-Esprit, pour en avoir un plus grand désir, un désir plus grand de se laisser emporter par les dons du Saint-Esprit. Parce que si je ne les connais pas du tout, j'en ai moins de désir. Tandis que si je vois ce que sont les dons du Saint-Esprit, alors j'ai un désir intense. Je les ai. Si je suis en état de grâce, j'ai les sept dons du Saint-Esprit. Si je suis en état de grâce, j'ai les sept dons du Saint-Esprit. Ce sont sept habitus, comme dit saint Thomas. Ça, c'est saint Thomas, c'est la théologie. Il y a sept habitus qui me sont donnés, mais que je ne peux pas exercer quand je veux. Mais ça me met dans un état de disponibilité à l'égard de l'action du Saint-Esprit en moi. Et les dons, c'est pour permettre cette disponibilité. Les dons me mettent dans une disponibilité à l'égard de l'action du Saint-Esprit, à l'égard de l'oxymie, à l'égard des motions du Saint-Esprit sur moi. Grâce aux dons, je suis capable de pouvoir répondre à l'Esprit-Saint. Et répondre pleinement à l'Esprit-Saint. Mon cœur s'ouvre à l'action de l'Esprit-Saint. Mon intelligence s'ouvre à l'action de l'Esprit-Saint. Je suis capable d'être mû par lui. Grâce aux dons. Les dons sont donc donnés pour permettre l'exercice divin des vertus théologales et des vertus infuses. Un exercice divin qui peut aller toujours plus loin. Un exercice divin qui permet par le fait même à la foi d'aller jusqu'au bout des exigences de la foi. À l'espérance d'aller jusqu'au bout des exigences de l'espérance. Et à la charité également. Donc ça permet cet exercice divin. Vous voyez, c'est au fond ça le propre des dons. Ça me connaturalise à l'Esprit Saint. C'est dans l'ordre de l'amour d'amitié. Quand on est en connaturalité avec un ami. Quand on est en connaturalité avec un ami, le moindre petit désir, on le comprend. Ce que les autres ne comprennent absolument pas, on le comprend tout de suite. On saisit immédiatement son appel. Et on est docile à répondre à son appel. C'est ça le propre des dons. C'est de me rendre docile au Saint-Esprit, de me mettre dans cette connaturalité profonde à l'Esprit-Saint. Et ceci vient de la charité, provient de la charité. Alors il y a les sept dons du Saint-Esprit. Alors il faut savoir, hein, pour bien comprendre ce que sont les dons du Saint-Esprit, bien saisir ces sept dons du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui vient perfectionner le don d'intelligence? La foi, je veux dire. C'est le don d'intelligence. Quand Jésus dit aux disciples d'Emmaüs, homme sans intelligence, il leur dit homme qui n'exerçait pas beaucoup les dons. Le don d'intelligence. Le don d'intelligence nous permet de lire l'écriture de l'intérieur. C'est le don qui nous permet de ne pas tomber dans certaines déformations de l'exégèse. Il faut prier au Saint-Esprit d'éclairer, d'illuminer tous les exégètes d'aujourd'hui. En leur donnant le don d'intelligence. Il y a le don d'intelligence et il y a le don de science. Ce sont les deux dons qui viennent perfectionner la foi. L'espérance est perfectionnée par le don de crainte. Et la charité est perfectionnée par le don de sagesse. L'exercice de la charité, comprenez bien, pas la charité, La charité, quant à son objet, touche Dieu pour peut être perfectionné. Mais quant à son exercice, il peut être perfectionné. Imprudence, le don de conseil. La force, le don de force. La tempérance. Ah. Vous n'avez qu'à compter. 2, 3, 4, 5, 6. Alors le dernier, c'est le don de piété. Le don de piété, c'est la justice. Et la vertu de religion. Qui est admettre la justice. Et la tempérance. C'est le don de crainte aussi. Le don de crainte perfectionne l'exercice divin de l'espérance et l'exercice de la tempérance. Vous avez donc là les sept dons par rapport aux diverses vertus. C'est une classification traditionnelle qui provient de saint Augustin et que saint Thomas a repris. Et cette classification traditionnelle provient du fait que saint Augustin a mis en parallèle les dons et les béatitudes évangéliques. Et c'est aussi très important de comprendre ça. Les béatitudes évangéliques sont liées à l'exercice divin des vertus théologales et donc des dons. Alors vous voyez tout de suite, regardez dans cet article que nous allons voir, dans cette question que nous allons voir sur le don de sagesse, saint Thomas pose la question. Quelle est la béatitude qui lui correspond ? Au don de sagesse, quelle est la béatitude qui lui correspond ? Alors regardez bien, si j'ai bonne mémoire, la béatitude qui correspond au don de sagesse, bienheureux les pacifiques. Bienheureux les pacifiques. L'article 6. D'après saint Augustin, la sagesse convient aux pacifiques qui agissent sans mouvement de rébellion et obéissent à la raison. Bienheureux les pacifiques. Et on comprend parce que par la charité, je suis lié à l'amour du Père, à la bonté du Père, je suis lié à sa volonté. On n'est qu'un seul désir. Quand on aime quelqu'un, on n'a qu'un seul désir, c'est d'accomplir sa volonté. Et par le point de vue de l'accomplissement divin de la volonté du Père, je suis dans la paix. Et je suis capable d'être faiseur de paix. Alors, je vais vous donner tout simplement, parce que c'est une petite. C'est intéressant à saisir ça. Le don de, c'est pas rigoureux, hein. C'est pas rigoureux, alors on peut discuter de temps en temps sur tel ou tel don. Le don d'intelligence, bienheureux les cœurs purs. Le don de science, bienheureux ceux qui pleurent. Le don de crainte, bienheureux les pauvres. Et ça fait mieux comprendre ce que c'est que les dons. Vous voyez, c'est l'épanouissement plénier des vertus théologales. Et les vertus théologales dans leur exercice plénier, évidemment. L'intelligence, grâce au don la foi, dans son exercice tout à fait divin, me donne un cœur pur. Bienheureux les cœurs purs. Grâce à l'exercice divin de la science, bienheureux ceux qui pleurent. Et l'espérance, grâce au don de crainte, bienheureux les pauvres. Il y a un lien entre l'espérance et la pauvreté. Et la sagesse, bienheureux les pacifiques. Le don de conseil, c'est là où c'est assez délicat. Le don de conseil, bienheureux les doux. Je dis ça, je crois. Je sais que pour saint Thomas, ça peut être autrement. Bienheureux les doux. Le don de force, bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Et le don de piété, bienheureux les miséricordieux. Mais c'est le don de piété, le don de conseil qu'on peut. Ça se touche. Bienheureux et miséricordieux. Mais j'aime mieux faire ça. Après mûre réflexion, je crois que c'est, ça va mieux. Donc voyez comment. Là, comprenez bien, on est en face d'une analyse théologique qui veut aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qui nous est donné? Les béatitudes évangéliques. Les béatitudes évangéliques dépendent des vertus théologales, mais d'un exercice tout à fait divin des vertus théologales. Donc dépendent des dons. Et c'est à travers les dons que je découvre les béatitudes évangéliques. Vous voyez donc, et c'est ça qui est important à souligner, vous voyez donc que cette théologie des dons et des béatitudes nous met tout proche d'une théologie mystique. Parce qu'une théologie mystique, c'est la théologie qui va développer l'exercice divin de la charité et des béatitudes évangéliques. Mais ici, saint Thomas, en théologie scientifique, pousse l'analyse jusqu'au bout pour essayer de comprendre tous les points de vue différents entre les béatitudes qui sont le fruit d'un exercice divin des vertus théologales transformées par les autres, et ces vertus théologales s'enracinent dans la grâce à Dieu. Et c'est l'analyse des différentes sources de vie qui sont à l'œuvre. Je vous demande tout de suite, si là il n'y a pas de difficulté, parce que nous allons maintenant entrer dans quelque chose d'autre, pour que ce soit très clair ça, très clair aussi. Nous sommes devant un mystère qui nous dépasse, hein. Et on essaie d'analyser comme on peut ce mystère. Parce que dans notre vie courante, nous vivons sous la dépendance de l'Esprit Saint. Ceux qui sont mus par l'Esprit Saint sont enfants de Dieu. Il y a sept manières d'être mus par l'Esprit Saint. Sept manières. Alors les dons sont connexes les uns par rapport aux autres. Donc si vous êtes mus par le don de science, ou si vous êtes mus par le don de sagesse, il y a des chances que vous soyez aussi mis par le don de crainte. Parce que la crainte est au point de départ de la sagesse. Donc il y a un lien entre les deux. Et alors il y a des... C'est comme dit saint Thomas, il y a des dons qui relèvent plus de la lumière et des dons qui relèvent plus du cœur. Il y a des dons plus affectifs et des dons plus intellectuels. Et c'est vrai que vous avez des dons plus affectifs et des dons plus intellectuels. Le don de piété, le don de force, le don de conseil, le don de crainte, c'est plus affectif. La sagesse, la science et l'intelligence, c'est plus intelligence. Mais tous, c'est la motion de l'Esprit Saint en moi. Donc les dons, c'est l'Esprit Saint qui s'empare de moi. Où je suis quasi instrument de Dieu. Je dis quasi instrument de Dieu, parce qu'en réalité, c'est l'ami. Ne soyez plus serviteurs, vous n'êtes plus des serviteurs, vous êtes des amis. Quand Jésus dit ça, ça fait partie de notre vie divine, c'est parce que, en tant qu'ami, vous devez être sous la dépendance de l'ami. En tant qu'ami, vous avez le même vouloir que l'ami. Et l'ami, c'est l'Esprit Saint. Et alors, on est sous la mouvance de l'Esprit Saint. Ce sont ceux qui sont mus par l'Esprit Saint qui sont enfants de Dieu. Et les dons sont là pour nous faire comprendre comment l'Esprit Saint s'empare de nous. Et comment l'Esprit Saint prend possession de nous. Il prend possession de nous pour nous faire faire des actes qui sont sous sa mouvance d'amour, et donc des actes héroïques. Ce sont des actes héroïques, les dons de l'Esprit. Mais d'une héroïcité pas quant à sa matière, mais quant à son mode. L'héroïcité des saints provient des dons du Saint-Esprit. Saint Thomas aime de faire le parallélisme entre les vertus héroïques des païens et le point de vue des dons du Saint-Esprit. Mais c'est une manière d'assumer par les dons du Saint-Esprit tout ce qu'il peut y avoir dans les vieilles éthiques sur les points de vue héroïques. J'agis comme Dieu veut que j'agisse. J'agis sous la mouvance de l'Esprit-Saint. Et donc j'agis en surhomme. Puisque j'agis en enfant de Dieu. Ce n'est que quand vous agissez sous la mouvance du Saint-Esprit que vous agissez en enfant de Dieu. Alors évidemment, c'est ça la question, comment arriver à discerner que c'est bien l'action du Saint-Esprit et que ce n'est pas vous. C'est là que le discernement sera nécessaire. Parce que vous voyez, c'est pas un acte original, hein, faisons attention. Ici, je me place dans la perspective de saint Thomas. Il y aura toute une autre perspective, c'est quand même bon d'en dire un mot. Une perspective sous la grande théologie de Suarez. Je vous ai déjà dit que Suarez était quelqu'un qui, de temps en temps, faisait un peu dévier saint Thomas. Eh bien, pour Suarez, les dons du Saint-Esprit, c'est de l'extraordinaire. Et donc, on ne doit pas les demander à Dieu. Alors que pour saint Thomas, c'est de l'ordinaire. Être mu par l'Esprit Saint, c'est normal pour un chrétien. Un chrétien doit être mu par l'Esprit Saint, c'est l'enfant de Dieu. Donc c'est ordinaire, c'est normal, c'est normal. C'est pas des choses extraordinaires. Autant les charismes, comme dit sainte Thérèse, ne doivent pas être demandés, autant l'exercice des dons du Saint-Esprit doivent être demandés. Nous devons demander à l'Esprit Saint de s'emparer de nous pour que nous soyons mus par lui dans cette mouvance du don de sagesse, du don de science, du don d'intelligence. Vous voyez, c'est pour ça que ça fait deux spiritualités très différentes. Une spiritualité plus volontariste, plus stoïcienne, et une spiritualité beaucoup plus de soumission et de docilité. C'est les deux grandes spiritualités de l'Église. Et ça relève des dons du Saint-Esprit. Et ça relève de la conception que vous avez des dons du Saint-Esprit. Si vous avez une conception des dons du Saint-Esprit comme étant l'épanouissement normal de la grâce, vous allez considérer que demander d'être sous la mouvance des dons du Saint-Esprit, c'est normal. Alors que si vous considérez que les dons du Saint-Esprit, c'est quelque chose d'extraordinaire, on dira attention, attention. C'est tout pas de mystique. Soyez raisonnable, soyez prudent, soyez volontaire, gardez le gouvernement de votre... Mais surtout, ne laissez pas entraîner dans le fond de l'Esprit Saint. C'est beaucoup trop dangereux. Alors vous avez l'extraordinaire du mystique. C'est-à-dire, oui, ça existe, mais c'est très dangereux. C'est pas de même, il faut mieux pas trop en parler. Alors les dons de l'Esprit sont relégués à l'extraordinaire, comme les charismes. C'est très curieux, ça. Vous voyez, ça a une grosse influence dans l'Église. Il faut bien comprendre ça. Il faut bien comprendre les deux grandes spiritualités qui ont existé dans l'Église. La spiritualité des pères, qui va jusqu'à saint Thomas, et puis la spiritualité plus moderne, avec saint Ignace. Saint Ignace, c'est pas comme ça, puisqu'il est mu par Saint-Esprit, mais avec Suarez. C'est la différence, vous voyez, c'est très différent. Saint Ignace est un saint, et il est mu par les dons du Saint-Esprit, d'une façon étonnante. Le début de la compagnie, c'était extraordinaire. Ils étaient pris par l'horizon des dons de larmes. C'est extraordinaire de Saint Ignace pleurer comme merveilleusement, comme un petit enfant qui pleurait ses fautes passées sous la mouvance du Saint-Esprit. Alors il peut y avoir un charisme des dons de larmes, hein. C'est pas nécessairement le don du Saint-Esprit. Mais ça peut être comme l'éclatement des dons du Saint-Esprit. Donc le début, puis alors après il y a eu cette théologie de Suarez qui a freiné énormément tout l'aspect mystique. Parce qu'ordinairement, la conduite du don de l'Esprit sur nos âmes, c'est ça la mystique. La mystique, c'est cette expérience d'amour que nous faisons grâce au don du Saint-Esprit. Ce n'est pas, vous voyez, la différence d'une attitude mystique et d'une attitude mystique au sens où on l'entend profondément. La différence de celui qui est chrétien et qui est volontairement chrétien, qui fait des actes de foi parce qu'il veut en faire, qui fait des actes d'espérance parce qu'il veut en faire, qui fait des actes de charité parce qu'il veut en faire. Et puis l'attitude mystique qui est sous la mouvance du Saint-Esprit. Les pères de l'Église disent, et saint Thomas a repris du reste la comparaison, la différence entre ramer et faire de la voile. On voit très bien. Ramer, surtout à contre-courant, c'est extrêmement pénible, c'est dur. Hein. On rame. Faire de la voile, Saint-Esprit. Alors vous pouvez prendre des comparaisons modernes entre l'avion qui est sur la piste. Alors ça, c'est les vertus. Il est sur la piste, puis il ronfle. Et puis, alors, c'est l'avion qui s'envole. Et c'est vrai, ça c'est très vrai qu'il y a les deux aspects, on le sent très bien dans la prière. Il y a des jours, on ne sait pas pourquoi, on sait très bien, c'est le Saint-Esprit qui agit en nous. Alors la prière est facile, merveilleuse, il y a une présence, on est pris. On est pris, puis le temps ne compte plus. C'est autre chose. Tandis qu'il y a des jours où rire, c'est dur, c'est pénible. Hein, c'est... On voit que ça dure longtemps. C'est plus un travail, vous voyez. Un travail laborieux d'adorer Dieu, de faire des actes d'adoration, des actes de foi, d'espérance et d'amour. C'est vraiment ramer. Et d'autres jours, la voile. Alors, quand on fait la voile, il faut continuer de ramer. Vaut mieux. Tandis qu'autrement, vous risqueriez, vous voyez, de trop profiter. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Le Saint-Esprit souffle, c'est merveilleux. Mais je suis dans une passivité. Vous voyez, c'était ce brave homme que je disais tout à l'heure. Il suffit de me mettre sur ce fauteuil. Saint-Esprit. Je me laisse emporter. Alors, je ne rame plus du tout. C'est le fauteuil qui sert de. Alors, c'est dangereux. Et là, ça risque de tomber dans l'illuminisme, ce que l'Église a condamné. L'illuminisme, c'est de croire que le Saint-Esprit fait tout. Et qu'on n'a plus rien à faire du tout. Ah non, non. Même quand le Saint-Esprit nous pousse sous le point de vue des dons du Saint-Esprit, nous avons toujours à accompagner. Je ne dis pas aider le Saint-Esprit, parce qu'il n'a pas besoin d'être aidé, mais à accompagner, parce que le Saint-Esprit nous demande d'être là présent et de vivre son mystère. Donc nous allons maintenant regarder le don de sagesse, qui est le don par excellence. Le don de sagesse, c'est le don par excellence. Selon l'ordre classique selon lequel on nomme les dons, on dit le don de sagesse, le don d'intelligence. Tous les deux, ce sont les dons réservés à la vie contemplative. La contemplation, pour être une vraie contemplation divine, a besoin du don de sagesse et du don d'intelligence. Mais surtout du don de sagesse. Le don de science, c'est le don de l'apôtre. On présente toujours ce don de science comme le don de Saint-Dominique par excellence. Et aussi le don de Saint-Ignace, vous voyez, ce qui fait pleurer. La béatitude de ceux qui pleurent. Et Saint-Ignace était souvent sous la mouvance de l'Esprit-Saint en pleurant. Sur ses péchés ou les péchés des autres. C'est propre de l'apôtre. Le don de conseil, c'est le don qui nous aide à exercer l'autorité. C'est le discernement qui nous est donné dans le don de conseil. Le don de force, c'est dans le luxe. Le don de piété, c'est toute notre dévotion. Et le don de crainte, la béatitude des pauvres, c'est présent comme fondement toute la vie contemplative, toute la vie apostolique, et toute notre vie proprement religieuse. Vous voyez, ça s'organise. Le don de crainte, je le montrerai très nettement, voyez, comme le don fondamental. Il n'y a pas de sagesse sans le don de crainte. Il n'y a pas de don de science sans le don de crainte. Il n'y a pas de don de conseil sans le don de crainte. Le don de crainte est toujours là pour nous donner cette espèce de sens de toujours laisser Dieu passer devant. Ne pas avoir trop notre activité humaine. Voyez, et être docile à l'action de l'Esprit-Saint. Le don de crainte est un don merveilleux. Hein, parce que c'est le don de la pauvreté, c'est le don du dépouillement, c'est le don qui nous a... Et alors il est radical, il est commun à la vie contemplative et à la vie apostolique et proprement à notre vie de dévotion et d'amour de Dieu. Nous allons maintenant considérer le don de sagesse, lequel correspond à la charité. Parlons d'abord de la sagesse elle-même, ensuite du vice qui lui est opposé. Bon, on ne le verra pas, parce que ici, ce n'est pas la peine. D'accord ? Alors, on verra donc que le don de sagesse. À propos de la sagesse, nous nous poserons six questions. La sagesse doit-elle être comptée parmi les dons du Saint-Esprit? Est-ce que nous devons dire qu'il y a un don de sagesse? C'est le théologien, vous voyez, il le sait très bien, jugement d'existence, je sais. Et le Concile de Trente énumère les sept dons du Saint-Esprit. Donc on n'avait pas le droit de, aujourd'hui de dire « Ah non, don de sagesse, non, c'est pas un don du Saint-Esprit. » Mais on doit justifier pourquoi c'est un don du Saint-Esprit. Comment le comprendre? Quel est son sujet? La sagesse est-elle seulement spéculative ou bien est-elle aussi pratique? La sagesse qui est un don peut-elle exister en compagnie du péché mortel? Existe-t-elle?